RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Salut à tous, c'est dimanche 13h et c'est Gros Moteur. C'est parti pour Motors en ensemble pendant une heure. Le King, bien sûr, est là. Bonjour Jean Lecroix.
Et oui, il est là. Salut Arnaud, bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Eh ben, je vais formidablement bien puisqu'on a, comme d'habitude, un gros programme et tu l'as dit. Avec ce premier rallye du championnat du monde, le WRC et l'affrontement entre les gros bras, c'est le moins qu'on puisse dire.
Effectivement, on va développer le sommaire avec toi, avec vous, avec nos spécialistes, nos invités. On va évidemment passer en revue l'actu sport méca de la semaine avec donc le rallye de Monte Carlo. Dans un instant, la passe de 6 peut-être pour Sébastien Ogier. Il a... sur le point, en tout cas il était sur le point avant l'ultime spéciale de remporter la première manche du championnat du monde. C'est quand même très très serré, on va le voir avec le Belge Thierry Neuville, on vous en parle dans un instant. 13h25, notre invité Randy Depunier, l'ancien pilote de MotoGP, il sera avec nous pour une présentation en détail de la saison à venir. Et puis Radio Paddock tout à l'heure, 13h40, Benoît Boutron sera avec nous pour nous donner les toutes dernières nouvelles du petit monde de la Formule 1. Avant ça nos directs, la 15e journée de top 14 de rugby. D'abord Toulouse, Grenoble, à Ernest Vallon, Wilfried Templier. Où en est-on dans cette rencontre?
Salut Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Et pour l'instant, c'est Grenoble qui est devant d'un petit point, 6 à 5. Le Stade Toulousain, deuxième du top 14, qui peut prendre la place de leader à Clermont, qui a été battu hier à Castres, alors que Grenoble, évidemment, va essayer de se donner de l'air pour le maintien. Grenoble, 12e, mais évidemment, faut pas oublier que Toulouse joue sans ses internationaux qui sont partis à Marcoussis pour préparer le France-Pays de Galles de vendredi, 7 au total. Et ça se sent, évidemment, dans cette première mi-temps, un peu laborieuse pour le Stade Toulousain, puisque malgré un essai de Guitoun en face, un drop et une pénalité d'Ugald donnent un petit point d'avance aux Grenoblois qui ne se sont jamais imposés à l'extérieur cette saison. C'est peut-être l'occasion avec tous les absents toulousains. 5 minutes à jouer dans cette première période, 6 à 5 pour Grenoble.
Le biathlon, la Coupe du Monde de biathlon avec la Mastart aujourd'hui en Tolse, en Terre-Selvant, en Italie, la Mastart des dames. Bonjour Julien Richard.
Salut Arnaud, salut à toutes et à tous. Avec une Française bien placée à l'issue du troisième tir, le premier tir debout, Justine Brezaz qui a commis une faute sur sa dernière balle, c'est dommage, elle est ressortie en quatrième position à 11 secondes de la tête de course occupée par l'Allemande Laura Dallmayr.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Et c'est donc parti pour la saison de rallye WRC, parti fort avec déjà une lutte homérique, on peut le dire, Jean-Luc, entre Sébastien Ogier, le français, et Thierry Neuville. Ça fait 3 jours que ça dure sur les routes du Monte-Carlo, la première des 14 manches de la saison. Pour débriefer tout ça, Jean-Luc, je te propose d'abord d'aller retrouver notre envoyé spécial sur la ligne d'arrivée, près de la ligne d'arrivée. C'est sur le point de se terminer, salut Lucas Vinois.
Salut Arnaud, salut Jean-Luc, salut à tous. Oui, en effet, c'est sur le point de se terminer. Là, on est dans la power stage. C'est le moment, le grand moment de ce rallye, le dénouement, puisqu'il y avait que 4 dixièmes. Tenez-vous bien, seulement 4 dixièmes entre Ogier et Neuville avant cette power stage. Et pour l'instant, c'est Sébastien Loeb qui a signé le meilleur temps de cette power stage, et Chris Meek, pardon, qui a signé le meilleur temps de cette power stage. Et pour l'instant, Thierry Neuville est 6 secondes 2 en avance au premier intermédiaire sur Chris Meek. Lutte de tous les instants. On va voir ce que va donner Sébastien Ogier dans quelques instants.
Alors, ça n'est pas sans faire penser, je sais pas pourquoi je pensais à ça Jean-Luc, toi qui suis ça évidemment avec une grande attention, il y a une époque, c'était un rallye d'Australie je crois, Loeb Grenholm, qui s'était terminé comme ça avec un écart infime. On est quand même sur l'un des plus petits écarts de la WRC là, avec ses 4 dixièmes, alors même si c'est pas encore terminé, mais...
Écoute, c'est absolument ahurissant. On croirait une course de Formule 1, pratiquement, ou un MotoGP, parce qu'effectivement, ils sont deux dans un mouchoir de poche, et la bataille entre Ogier et Neuville, bon, on se doutait bien avant le début de la saison que c'est entre ces deux-là que ça pouvait jouer. Alors, il faut rappeler que Haute Tanaka n'est pas loin, il est troisième, il a été retardé, mais il a fait une remontée extraordinaire, et je pense que Lucas, évidemment, va nous le confirmer. Il a aligné les temps scratch, mais comme il avait perdu pas mal de temps hier, il a du mal à revenir, mais il va peut-être monter sur le podium quand même. C'est sûr que là, ça va se jouer à un rien. Je crois qu'il y a un petit problème technique d'ailleurs, on sait pas trop, électrique ou de gaz, Lucas, sur la machine de Sébastien Ogier.
Oui, il y avait un petit problème. Il était un petit peu inquiet à l'arrivée de la spéciale ce matin, d'une des spéciales qui s'est déroulée ce matin. Il a pas trop voulu s'épancher sur le problème. Il voulait pas tout simplement informer ses adversaires. Donc il s'est arrêté pendant la liaison pour effectuer quelques petites réparations. Alors on lui demandera tout à l'heure de quelle nature elles étaient, mais en tout cas il va rien lâcher, ça c'est sûr. Et pour revenir à Haute Tanaka, qui a été vraiment impressionnant, qui est le pilote tout simplement qui a signé le plus de temps scratch, le plus de meilleurs temps sur les spéciales. Mais c'est vrai qu'il avait eu un souci, il avait dû s'arrêter, il avait crevé, il a changé une roue, il a perdu 2 minutes, sans quoi il aurait été à la lutte pour la gagne.
Jean-Luc, Lucas, cette lutte qui s'annonce extrêmement serrée, on va revenir sur la tête de course entre Sébastien Ogier et donc Thierry Neuville, cette lutte qui s'annonce extrêmement serrée, on l'a vu tout au long de ce rallye. Comment on explique comme ça justement que ça puisse être aussi serré, Jean-Luc?
Ah bah écoute, je crois que
c'est le talent, c'est quoi? C'est les voitures qui sont similaires, on va dire?
Alors, du côté de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, on rappelle qu'ils ont changé d'écurie après avoir utilisé une machine, tout le monde le savait, légèrement inférieure, la Ford de M Sport, pour décrocher les deux derniers titres de champion du monde en 2018 et 2017. Auparavant, on rappelle que c'était la série avec la Volkswagen Polo, hein, pendant 4 années de suite. Et bien là, c'était une nouvelle équipe avec laquelle il fallait s'acclimater. Bien sûr, ils la connaissent bien, cette équipe, puisque tout à l'heure, Lucas en parlait dans les GG du sport, il avait roulé pour Citroën, mais ça remonte à 2011. C'était une autre vie. Les voitures n'avaient rien à voir. Du côté de Hyundai, on a été champion du monde constructeur. Malheureusement, on n'a pas réussi. C'est Toyota qui avait décroché le titre au dernier moment. Donc, on est très frustré. On a des moyens énormes. Et c'est vrai que c'est maintenant ou jamais, parce que le Belge Thierry Neuville est extrêmement rapide. Mais il y a toujours quelque chose qui se met en travers. Soit lui commet quelques petites erreurs. On peut pas le nier l'an dernier. Soit effectivement son équipe les commet. Donc, c'est vrai que cette année, on est clairement parti pour être champion du monde ou rien du tout, mais ce sera un drame du côté de l'équipe coréenne.
Alors ça s'annonce serré toute la saison, Jean-Luc, justement, ou c'est où il va y avoir quand même des...
Ah bah oui,
toute la saison.
Ah bah ça va être au rasoir. Écoute, il est évident que l'avantage du WRC aussi, c'est qu'il y a beaucoup de terrains différents, à commencer par le Monte Carlo traditionnellement, où il y a un peu de neige ou beaucoup de neige, de la glace, alors il y a le choix des pneumatiques qui est extrêmement important, et on en parle peu, mais il y a des ouvreurs qui sont des pilotes qui connaissent parfaitement le terrain et qui passent dès qu'ils le peuvent, ou plutôt le plus tard possible par rapport à l'évolution du terrain, pour donner des informations aux pilotes qui eux choisissent les trains de pneumatiques. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'on peut mixer les pneumatiques. Alors, certains pilotes s'insurgent contre ça, c'est-à-dire monter, par exemple, en croisée, deux pneus neige et deux pneus pour le sec, ce qui est absolument incroyable et absolument interdit, évidemment, sur les routes de tous les jours. Hein. Mais les pilotes de rallye peuvent faire ça de manière à choisir un compromis en fonction d'une spéciale, par exemple, d'une quinzaine ou d'une vingtaine de kilomètres de long, où tu vas avoir une partie qui va être glissante parce qu'elle est verglacée ou qu'elle a un peu de neige, et puis le reste qui est extrêmement accrocheur parce que c'est sec. Donc si tu choisis par exemple les pneus pour la neige, bah tu vas aller très vite au début, relativement, et puis après tu vas cramer tes pneumatiques sur les derniers kilomètres en goudron. Donc c'est toute cette stratégie également qui est très importante. Mais pour répondre à ta question, oui, je suis certain que le combat va être absolument grandiose toute la saison entre ces deux grands pilotes, et on y rajoute, et Lucas l'a souligné, Ott Tänak, évidemment, à minima. Hein.
Ça annonce de belles courses, effectivement. Justement, Lucas, où en est-on? Où en est-on dans cette Power Stage du rallye de Monte Carlo?
Écoute, pour l'instant, virtuellement, au premier intermédiaire de cette Power Stage, Sébastien Ogier a 8 dixièmes d'avance. Alors là, on vient d'actualiser les classements. Il est en avance, il a 3 secondes d'avance, 3 secondes, une très exactement d'avance pour Sébastien Ogier par rapport à Thierry Neuville. Donc si on en restait là, Sébastien Ogier remporterait une nouvelle fois le rallye de Monte Carlo.
Tiens, on va faire un autre tour de nos directs. C'est la mi-temps au rugby, 15e journée du top 14. Toulouse est repassé devant face à Grenoble, Wilfried.
Toulouse a renversé la vapeur, mené 3-0, mené 6-5 grâce à un drop et une pénalité du Gald. Et bien, deux essais signés Guitoun et Mathis Lebel juste avant la mi-temps. Le deuxième transformé par Zach Holmes donne l'avantage au Stade Toulousain à la pause. 12-6 et surtout 2-0. Donc c'est pas mal pour le Stade Toulousain si ça veut augurer d'un bonus pour la suite.
Très bien, à tout à l'heure Wilfried pour la deuxième période donc de cette rencontre. Je vous rappelle le match de clôture, ce sera cet après-midi 16h50 en direct dans l'Intégral Sport sur RMC entre le Rugby Club Toulonnais et le Stade Français. On suit également le biathlon, la Coupe du Monde de biathlon, c'est à Antols, en terre selva en Italie, la Mastart féminine avec Julien Richard.
C'est le Money Time, c'est le dernier tir de cette Mastart et malheureusement pour Justine Brezaz, il y aura pas de podium, elle le craque complètement, elle rate les 3 premières balles de son dernier tir. Les 2 dernières sont dedans, mais elle sera beaucoup trop loin pour jouer sur le podium. C'est dommage, elle a été vraiment à la lutte pour la gagne et pour le podium. Et c'est Dallmayr qui sort en tête devant Vanessa Hines. Et Justine Brezaz est partie tourner sur la note pénalité.
Allez, 13h14, bienvenue si vous nous rejoignez dans Motors sur RMC. Comme tous les dimanches, on est ensemble jusqu'à 14h avec le King, Jean-Luc Roy. On parle évidemment du rallye WRC, première manche du championnat du monde de la saison. C'est évidemment sur les routes du Monte Carlo. Le dénouement est proche, le dénouement dénouement est imminent. C'était Sébastien Ogier, le français qui était en tête sur Citroën avant la Power Stage, avant la dernière spéciale devant Thierry Neuville. Ça semble a priori se confirmer. Je voudrais qu'on revienne aussi sur Jean-Luc, sur la performance de Sébastien Loeb qui a vécu, on va dire, quelques jours compliqués. C'est quoi? C'est la voiture, c'est le doublé Dakar-Monte-Carlo qui a été un petit peu compliqué à gérer?
Ah, écoute, il est pas mal du tout. Hein.
C'est il quand est pas même mal, sacrément... non. Tout est relatif, ah, oui. Enfin bon.
Oui,
quand c'est Sébastien Loeb, on en
attend
forcément plus.
Oui. Alors la bataille, effectivement, pour la victoire. On rappelle qu'il a réussi à décrocher quand même une victoire en spécial pour cette nouvelle équipe Hyundai, puisque c'est le transfert aussi évidemment très important. Même si on sait qu'il ne participera qu'à 6 épreuves dans la saison, il ne fera pas tout le championnat du monde. C'était son souhait. Il aurait pu, hein, mais on sait que c'est impliquant et que ça prend beaucoup de temps. Il préfère continuer à picorer comme ça, Sébastien Loeb et Daniel Elena, donc sortis des sables du Pérou où ils n'ont pas remporté la victoire. Mais écoute, c'est très bien, il est en bataille quand même pour une place sur le podium. Il est quatrième pour le moment, il est en bataille avec Tanak, donc on a souligné cette remontée météorique. Et puis Latvala avec la Toyota qui n'est pas loin. Donc il y a un joli trio là aussi pour cette place sur le podium. On peut dire que pour quelqu'un qui a changé d'environnement, de toute façon, Loeb reste le... Ben, je crois qu'on enfonce des portes ouvertes, mais on n'est pas 9 fois champion du monde pour rien. Il a un talent fou, quel que soit l'engin qu'on lui met entre les pattes. Alors évidemment, ceux qui ne font que ça, j'allais dire, et c'est le cas d'Ogier et de Neuville, sont quand même intrinsèquement un peu plus rapides. J'allais presque dire il vaut mieux. Puis on rappelle quand même qu'ils ont une douzaine, voire une quinzaine d'années de moins. Et malgré tout, ça joue. Hein. Il a 45 ans maintenant, Sébastien Loeb, même s'il est extrêmement talentueux. Et ben, la toute petite pointe de vitesse, mais on le reverra, hein. C'est clair qu'il est là, Lucas le soulignait également, pour prendre des points pour le constructeur coréen. Bien sûr, l'écueil, ce serait qu'il vienne prendre des points à Neuville. Alors ça, je pense que là, on pourrait voir, peut-être, je ne sais pas, je m'avance, hein, mais on pourrait voir effectivement une petite consigne, parce que l'homme qui va se battre pour le titre pour Hyundai, c'est évidemment Thierry Neuville.
Ah, tiens, on va écouter justement Sébastien Loeb qui revient un petit peu sur ses ambitions, sur le fait d'être là, présent au départ de ce rallye de Monte-Carlo. Qu'en attend-il?
Je suis pas là pour faire des duels avec Seb Ogier, que à la base je suis là moi pour ramener des points constructeurs, lui il est là pour jouer un championnat. Après je sais que les gens attendent toujours ça et mais quelque part moi aujourd'hui c'est pas les mêmes objectifs. Je sais que je suis toujours attendu au tournant, mais en même temps moi je roule pour parce que ça me plaît, je roule pas pour faire plaisir à tout le monde et donc je ferai de mon mieux et puis on verra ce que ça donne.
Voilà, donc Sébastien Loeb, le nonuple champion du monde des rallyes. C'est terminé, je crois, Lucas, justement, pour ce Monte-Carlo. Ça y est, tu as le résultat final?
Oui, exactement. Et c'est Sébastien Ogier qui remporte donc son 7e rallye Monte-Carlo. Ah, lui, le gars pensait, lui qui est à domicile et dans cette Power Stage une fois de plus, il a fait preuve de sang-froid. Il a montré qu'il était capable d'aller très vite, même dans les moments les plus chauds, ce que parfois ne réussit pas toujours à faire Thierry Neuville. C'est ça aussi qui différencie un sextuple champion du monde des rallyes à un quadruple vice-champion du monde des rallyes en la personne donc de Thierry Neuville. Donc victoire de Sébastien Ogier qui commence ce rallye de Monte-Carlo avec le plan, puisqu'il y aura les 25 points de la victoire et en plus de ça il y aura quelques points pour la Power Stage, 3 points puisqu'il a fini 3e de la Power Stage.
Bon, voilà, ça y est, c'est fait pour Sébastien Ogier. Il y a aussi quelque chose qui a signalé, je crois que c'est la 100e victoire de Citroën en championnat du monde des rallyes. Ça c'est quand même quelque chose de très symbolique aussi, Lucas.
Bah, c'est très symbolique, en plus surtout qu'on fête le centenaire de Citroën cette année, et puis c'est aussi matérialiser ce nouveau transfert. On a changé de politique chez Citroën, on a compris que dans le passé on avait fait des erreurs, notamment au niveau des pilotes, et que pour renouer avec la victoire, pour renouer avec un championnat du monde, qu'il soit constructeur ou pilote, on se concentrera d'abord sur le championnat pilote. Il fallait recruter un top pilote, justement un pilote talentueux qui était capable d'aller chercher le meilleur de cette monoplace qui était performante. On l'a vu l'année dernière avec Loeb qui a remporté un rallye, qui a failli en remporter deux avec le Mexique s'il n'avait pas crevé. Donc oui, Citroën là qui finalise et qui montre que la nouvelle politique infligée et plutôt insufflée par Pierre Budard fonctionne avec cette victoire dès le premier rallye de la saison.
Oui, Jean-Luc, c'est quand même quelque chose d'assez symbolique et à la fois significatif aussi d'une domination et d'un savoir-faire qui s'est perpétué à travers les années, parce que c'est pas évident, on le sait, hein, de rester justement en WRC comme ça dans la continuité. Hein.
Bah absolument. Écoute, on a l'impression que la boucle est bouclée. Voilà un retour absolument triomphal pour Sébastien Ogier et Julien Gracia. Je rappelle qu'on avait Julien dans l'émission la semaine dernière. Hein, on parlait de ses perspectives du Monte Carlo. Il était, c'est normal, un peu sur la réserve en disant on découvre l'équipe, même si on connaît certaines personnes, on découvre la machine malgré tout. Bah c'est fait et c'est fait avec un bras de fer jusqu'à la toute dernière spéciale, comme le soulignait Lucas. Les écarts sont absolument incroyables. Et puis tu sais, souvent on reproche aux Français, aux athlètes français dans tous les domaines, de ne pas être au rendez-vous chez eux. On rappelle que Sébastien Ogier, il est gapensé, il est de Gap. Oui. Il y avait des spéciales qui passaient quasiment devant sa porte. Hein. Il a connu ses routes depuis tout petit, les a parcourues dans tous les sens. Donc j'imagine dans quel état il doit être là, parce que bon, c'est
comme ce fut le cas d'ailleurs il y a quelques années pour à Haguenau pour le Rallye d'Alsace avec Sébastien Loeb. Hein.
Exactement.
Absolument. Tu as raison de le rappeler. C'est vrai que c'était un retour à la maison aussi pour Sébastien Loeb, et la victoire avait été à la hauteur effectivement de ce qu'on attendait. Ben, je te dis, c'est la marque des grands champions, parce que la pression, elle doit être positive, il faut la tourner positivement et ne pas commettre d'erreurs au Monte Carlo particulièrement, où on a vu de nombreux adversaires de ces deux-là, hein, parce qu'on va mettre Neuville n'est pas loin. Il lui manque encore un tout petit quelque chose, mais enfin, on voit qu'ils sont séparés par quelques petites secondes après des centaines de kilomètres de spécial. C'est absolument ahurissant. Écoute, c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Je ne peux pas dire mieux, et je pense qu'on va se régaler vraiment toute la saison, parce que en plus, ces deux grandes équipes, pour les gens de chez Citroën, c'est un retour aux sources. Hein. Et puis Lucas évoquait Pierre Budard, le nouveau patron de la compétition chez Citroën. Ben, on le savait. Je vais être un peu méchant, mais le problème chez Citroën, c'était pas les voitures, c'était entre le volant et le baquet, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, ben, il faut des champions à la hauteur de la machine. La machine, elle était dans le coup, et Sébastien Loeb l'avait démontré avec Daniel Elena, avec cette victoire notamment en Espagne, au rallye de Catalogne. Et puis, comme le disait Lucas aussi, il avait failli l'emporter au Mexique. Ben là, maintenant, on sait que la Citroën est capable de gagner. Elle le fait. L'équipe est capable de gagner avec Sébastien Ogier. J'imagine que c'est une joie immense. Maintenant, dans leur tête, je dirais, ils sont déjà en train de se tourner vers le deuxième rallye.
Le deuxième rallye, ce sera quand exactement, Lucas? C'est la Suède, c'est ça?
Ce sera en Suède, ouais. Ce sera en Suède, il me semble, mi-février.
Mi-février, très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler les principales places, les principaux enseignements de ce rallye, du coup, Lucas, s'il te plaît?
Alors, ce sera donc Sébastien Ogier qui remporte ce rallye, le 7e Monte Carlo dans sa carrière, faut-il le dire. Il égale Sébastien Loeb, qui était recordman des victoires au Monte Carlo. Donc, une deuxième place pour Thierry Neuville à seulement quelques secondes. Troisième pour Ott Tanak, qui a connu un petit pépin, mais qui a encore montré et éclaboussé de ce talent sur ce rallye. Quatrième, Sébastien Loeb pour son retour, pour son premier rallye avec Hyundai. Et Jari-Matti Latvala sur sa Toyota complète le top 5.
Merci beaucoup, Lucas Vinot, envoyé spécial de RMC Sport sur le rallye de Monte Carlo. La première manche donc de la saison conclue par la victoire du Français Sébastien Ogier, faut-il le rappeler, la 100e victoire pour Citroën en WRC. Jean-Luc, tu restes évidemment avec moi. On se retrouve dans un instant. Tiens, de quoi on va parler de MotoGP. Randy Depunier, l'ancien pilote justement de MotoGP, sera avec nous en direct. On va parler de la saison à venir. Il y a de très très belles choses et beaucoup de choses à dire. À tout de suite dans Motors sur RMC, 13h24.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Et bienvenue si vous nous rejoignez dans Moteur sur RMC. Il est 13h25. On se régale évidemment comme tous les dimanches entre 13h et 14h à parler de l'actu des sports mécaniques. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez à l'instant, la victoire de Sébastien Ogier qui s'est imposé au rallye de Monte Carlo d'un cheveu devant le Belge Thierry Neuville. Ça s'est joué lors de la toute dernière spéciale, la Power Stage. Donc première victoire de la saison pour le premier des 14 rallyes du championnat du monde WRC. Jean-Luc Roy est toujours là, évidemment, The King.
Oui.
Jean-Luc. On va parler de moto, si tu le veux bien. Je sais que tu adores ça.
Bah, j'adore ça. Et attends, j'ai une nouvelle, si tu veux bien, parce que je suis également les 24 heures de Daytona, qui se déroule au nord de la Floride, et il tombe des trompes d'eau. On a sorti le drapeau rouge, et tiens-toi bien, eh bien, pour le moment, c'est un certain Fernando Alonso qui est au commandement, avec excellent. Ses équipiers Van Der Zende, Taylor et Kobayashi, avec une Cadillac. Donc, je peux te dire que là, ce sera un événement formidable. On rappelle que Fernando, double champion du monde de Formule 1, a quitté la Formule 1, tu le sais, et c'est sa deuxième participation au 24 24 heures de Daytona. Peut-être qu'il sera en train de le faire après sa victoire en 24 heures du Mans. Bon. On est peut-être en train de vivre un exploit. Gars.
Et on en reparle dans une vingtaine de minutes, peut-être plus en détail avec Benoît Boutron. Ce sera dans Radio Paddock. Mais d'abord donc, le MotoGP.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droitine, 320.
Le briefing.
Ah oui, le championnat du monde de MotoGP qui reprendra ses droits dans quelques semaines. Ce sera lors du Grand Prix du Qatar à Doha le 10 mars prochain. 19 courses en tout, dont évidemment le Grand Prix Bugatti du Mans dans la Sarthe. On rappelle que c'est Marc Marquez, le tenant du titre donc de MotoGP de ce championnat du monde. Et pour en parler, Jean-Luc, je te laisse accueillir notre invité.
Oui, bah écoute, on a le plaisir d'accueillir Randy Depugné, ancien pilote de Grand Prix. On va voir que son actualité est très chargée. Salut Randy.
Bonjour.
Bonjour Randy Depugné.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Motors. Alors, je parlais de ton actualité. Tiens, bon, on va commencer au plan du MotoGP parce que tu participes au développement d'une machine qu'on va suivre de très très près cette saison parce que je crois qu'il y a un certain Johann Zarco qu'on va retrouver au guidon. Lapsus révélateur.
Oui, effectivement, toute la saison, la fin de saison 2018, hein, donc de août à décembre, j'ai développé cette moto suite à la blessure de Mika Kallio, qui était le pilote
titulaire. La KTM, hein, on va le rappeler, la KTM.
Voilà. Pour le moment, c'est pas prévu que je reteste cette saison, mais bon, on sait jamais. Hein, l'an dernier, c'était pas prévu non plus, et puis finalement, j'ai fait quand même une demi-saison de test, donc on verra bien. Il y a eu pas mal de bonnes choses sur cette moto. Elle est encore en phase de développement. Hein. KTM, c'est seulement ils vont attaquer leur troisième saison complète en MotoGP. Ils sont partis de zéro. Et ils s'attaquent quand même aux plus grandes marques. Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki qui est bien revenu aussi au premier plan. Donc c'est pas simple. Johan sort de deux belles saisons sur une Yamaha privé avec une moto qui était au point. Là, il va être pilote officiel, mais sur une moto aussi en phase de développement. Donc, il va devoir développer la moto en plus de courir. Donc, ça va être quelque chose de nouveau pour lui. Et je pense de pas simple. Mais bon, avec le talent qu'il a et les deux saisons qu'il vient de faire, je pense que ça va pouvoir le faire. Mais il va pas s'attendre, je pense, à des miracles sur la première partie de saison.
Oui, c'est clair, Andy. Justement, parlons de KTM, qui est quand même une marque qui s'est surtout développée en tout terrain, notamment au Dakar. Ils viennent encore de l'emporter au Dakar. On en a parlé également dans Motors la semaine dernière. Donc c'est une marque qui s'est imposée dans toutes les disciplines dans lesquelles elle s'est engagée. Ça peut paraître surprenant, d'ailleurs. On l'a déjà commenté, bien sûr, dans Motors, ce choix de Johann Zarco. Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu as vu du potentiel de la machine te séduit et te donne à penser qu'effectivement ça prendre un petit peu de temps, mais ils peuvent y arriver.
Oui, ils peuvent y arriver. Maintenant, on sait, il s'est passé pas mal de choses hein, suite à la signature de Johan, et c'est pas à moi d'en parler. Après, ce que Johan a prouvé au bout de sa première saison, il faisait partie des meilleurs pilotes mondiaux. Il aurait pu avoir la chance de disposer peut-être d'une Honda, d'une Ducati, ou même d'avoir une Yamaha officielle. Il y a eu des choix qui ont été faits par son entourage de signer chez KTM. Il y a du pour, il y a du contre. Mais c'est vrai qu'à l'âge où il a, après ces deux saisons, je pense que Johan aurait pu tout de suite enchaîner avec une moto déjà gagnante. La KTM, c'est pas le cas. Elle deviendra peut-être gagnante, cette moto. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup de travail. Et on va voir comment Johan va réussir à s'en sortir avec ce nouveau projet. Maintenant, c'est quelqu'un de très réfléchi qui travaille beaucoup, donc je pense qu'il y a des chances qu'il y arrive, mais ce qui est sûr, c'est que il va pas être en mesure de monter sur le podium dès le premier Grand Prix de la saison, à moins d'un miracle.
Oui, ça c'est clair. Alors justement, tu nous fais la transition. Je sais que tu es pro. D'ailleurs, devrait y avoir une autre actualité te concernant. Tiens, allez, on va le faire tout de suite aussi. Tu vas courir pour une autre marque. Cette fois, c'est dans le championnat du monde d'endurance moto et notamment aux 24 heures du Mans. Alors raconte-nous aussi cet engagement en parallèle. Alors là, pour la saison complète. Hein.
Oui, pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. Effectivement, je suis en discussion pour participer au championnat du monde d'endurance. Donc j'espère qu'on va arriver à trouver un accord. Donc c'est un peu trop tôt pour en parler. Ce que je sais, c'est que j'ai participé au championnat du monde moto électrique. Alors je sais que pour les puristes, ils veulent pas en entendre parler de ce truc-là. Mais c'est intégré dans le championnat du monde MotoGP. Il y aura 6 grands prix avec des pilotes, des ex-champions du monde qui viennent d'un peu de tous les horizons. On aura 20 motos identiques. voilà, j'ai décidé d'y participer parce que je pense que c'est quelque chose où on va bien rigoler. En plus, je vais participer dans le Team LCR dans lequel j'ai roulé pendant 5 ans en Grand Prix où j'ai eu mes meilleures saisons. Donc, quand Lucio Cecchinello m'a appelé,
oui,
on me demande de faire ça, j'ai dit allez, pourquoi pas. Et puis voilà, il y a que 5 événements et 6 courses dans l'année, donc c'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Et j'espère qu'on va pouvoir faire de belles bagarres, même si malheureusement il y aura pas de bruit, quoi.
Bien sûr, c'est le problème. Mais bon, on pourrait en parler une autre fois. On en parlera d'ailleurs, hein, bien volontiers. On va revenir au MotoGP parce qu'il y a une telle actualité. Et la dernière, elle est pas très drôle parce que vous, pilote moto, et moi je dis toujours, les pilotes moto sont des héros et le mot est faible. Malheureusement, Jorge Lorenzo, qui vient de signer, donc qui a quitté Ducati où il commençait à gagner pour partir chez Honda, pour arriver chez Marquez, s'est blessé en s'entraînant en dirt. Hein. Alors est-ce que tu comprends ça déjà, et est-ce que c'est indispensable, même pour un pilote de MotoGP, de prendre des risques comme cela? Il s'est fracturé le scaphoïde, hein, il a été opéré.
Indispensable, je sais pas, mais en tout cas, on sait que tous les pilotes font beaucoup de sport, que ce soit du dirt track, du motocross ou d'autres choses l'hiver. Maintenant, ça permet de garder le contact pendant 2 mois avec une machine. Malheureusement, Lorenzo s'est fracturé le scaphoïde, c'est le même poignet qui s'est blessé au mois d'octobre en Thaïlande, donc ça fait 2 grosses blessures coup sur coup sur ce poignet, 10 jours avant les premiers essais hivernaux, donc en Malaisie il y sera pas, ça c'est clair, donc il va déjà rater les premiers essais. Marc Marquez, qui est son coéquipier, qui lui aussi sort de convalescence, donc là chez Honda, ils vont débuter la saison avec 2 pilotes en convalescence. Je pense que Marquez va être à 100% au Qatar, Lorenzo, ça va être un petit peu plus difficile, un scaphoïde c'est quand même vraiment embêtant lorsqu'on est pilote. Mais bon, en tout cas, il va tout faire pour revenir au top de sa forme le plus tôt possible. Je pense que Lorenzo chez Honda, ça peut être intéressant de voir un petit peu la rivalité là entre les deux. Lorenzo sort quand même de 2 saisons compliquées, même si l'an dernier il a gagné des courses, il a remontré qu'il était capable d'être au plus haut niveau. Il a vraiment soif de revanche. Et on sait que Lorenzo, il est jamais aussi fort lorsqu'il est revanchard. Qui a beaucoup d'orgueil. Donc espérons que cette blessure ne l'handicape pas trop pour jouer le titre sur la saison.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez dans Motors. Il est 13h33 sur RMC. Randy Depunier, l'ancien pilote de MotoGP, est avec nous en direct. Messieurs, je vous propose de faire un détour par nos directs parce qu'il y a du ski, du rugby. Le ski d'abord en Autriche, dans le Tyrol, à Kitzbühel, le Super G donc de Kitzbühel, sous les yeux de Morgan Mori, avec le passage d'un Français en ce moment, je crois, Morgan. Salut.
Oui, salut les rois du cylindre en V avec Adrien Théo, dossard numéro 3 de ce Super G. Un seul concurrent a fini pour l'instant, c'est Joseph Ferstel, l'allemand. Valder, l'autrichien, est sorti à mi-parcours. Adrien Théo, qui a terminé à 12e place de la descente vendredi, il a des ambitions sur ce Super G. 1 minute 30 de course, c'est parti pour le skieur de Val Thorens, Adrien Théo, dossard numéro 3. Ils sont 8 Français au départ de ce Super G. Ensuite, on verra Brice Roger, Alexis Pinturo, Johan Claret, Blaise Giesendanner pour les principales chances. Tricolore, premier envol pour Adrien Théo qui s'est bien posé. Le premier intermédiaire, il est mauvais, 21 centièmes de retard sur la marque de référence réalisée par Ferstel. La position de recherche de vitesse, c'est Adrien Théo qui part légèrement sur l'arrière sur le deuxième mouvement de terrain, une grande boucle à gauche, un S ensuite pour le skieur sur la piste de la Strive. Ça bouge un peu au niveau des bras pour Adrien Théo. Le deuxième intermédiaire qui va arriver, c'est mauvais encore, c'est pas très loin, 28 centièmes du temps de référence réalisé par Ferstel. Adrien Théo qui va arriver dans un instant dans la deuxième partie de ce Super G de Kitzbühel, plein soleil sur la station autrichienne. Il faut en profiter pour aller chercher des bonnes positions de recherche de vitesse. Nouveau passage de S, le saut Lausberg Kanté pour Adrien Théo, mais l'intermédiaire indique encore du rouge, plus 58 centièmes de retard. Le passage de la traverse dans un instant pour Adrien Théo. Il faut rester le plus haut possible sur la piste et ensuite aller couper ce virage. C'est pas mal fait pour Adrien Théo. Est-ce qu'il va être capable de grignoter ses 55 centièmes de retard sur Fersel? Le passage de l'arrivée dans un instant, la dernière bosse, il est parti un peu centré, il a accroché la porte et ça en termine pour Adrien Théo, deuxième, 51 centièmes de retard sur Ferstel. Ça ne devrait pas faire de podium pour Théo. Prochain tricolore à s'élancer avec le dossard numéro 12, ce sera Brice Roger, puis Alexis Pinturo avec le 14.
Merci Morgan Mori, envoyé spécial de RMC Sport à Kitzbühel en Autriche. Le rugby, c'est ce match de la 15e journée de top 14 entre le Stade Toulousain et le FC Grenoble. Wilfried Templier, Ernest Vallon, où en est-on?
Oui, les rois de la soupape, eh bien, pour cette 15e journée
bataille
de top 14,
bataille de lieu commun,
j'essaie de me mettre au niveau de Morgan Murray, effectivement.
Eh bien,
on s'était quitté à 12 à 6 à la pause. Les Grenoblois sont rapprochés en début de deuxième mi-temps grâce à une pénalité du Galde. Ça faisait 12 à 9 à ce moment-là. Et Holmes, à l'instant, alors que Mathis Lebel, le jeune Mathis Lebel, qui avait déjà marqué un essai, eh bien, a failli en marquer un deuxième. Il a laissé échapper le ballon à 1 mètre de la ligne sur un coup de pied rasant des Toulousains. Eh bien, on est revenu en position de hors-jeu des Grenoblois. Holmes a mis la pénalité 15 à 9, donc pour le Stade Toulousain, qui a marqué deux essais dans ce match par le Belge, je vous l'ai dit, et donc aussi par Guitoun, qui sont donc à un essai du bonus offensif. Mais c'est dur parce que les Toulousains sont évidemment privés de 7 internationaux qui préparent le France-Pays de Galles. Et ce sera vendredi à 21h au Stade de France, et il manque évidemment cette équipe du Stade Toulousain qui, si elle l'emporte aujourd'hui, on le précise, sera leader devant Clermont. Clermont qui a perdu hier à Castres. Une victoire du Stade Toulousain, ça serait la place de leader pour les hommes du Gomola.
Merci beaucoup Wilfried Templier au rugby, Laurent de l'Apéro.
49e minute.
À tout à l'heure. Jean-Luc, Jean-Luc Roy est toujours là évidemment dans Motors à 13h37 sur RMC avec notre invité, l'ancien pilote de MotoGP. Et oui, on présente les enjeux de la saison à venir 2019 de MotoGP justement, qui commencera à Doha au Qatar le 10 mars. Randy Depunier donc est toujours avec nous, avec toi Jean-Luc.
Oui Randy, alors on a effleuré le sujet Honda avec l'arrivée de Jorge Lorenzo. Tu l'as dit, qui est quelqu'un d'orgueilleux, hein, qui n'a jamais eu d'excellent rapport avec ses équipiers, c'est le moins qu'on puisse dire. On se rappelle de la cohabitation orageuse chez Yamaha avec un certain Valentino Rossi. Que crois-tu qu'il peut se passer? Alors je sais qu'il faut une boule de cristal, mais avec Marquez qui est chez lui, chez Honda, qui a décroché un nouveau titre de champion du monde, on a mis deux monstres en même temps. Alors chez Honda, on dit qu'on va arriver à gérer. Ça va être dur, non?
Oui, je pense que ça va être dur. À mon avis, si les deux pilotes ne sont pas en lutte pour le titre, ça va bien se passer. Mais il suffirait que les deux pilotes soient au coude à coude. On sait que Marquez, il est très fort, hein, pour, énerver un petit peu ses adversaires dans sa manière de rouler. Il n'hésitera pas à faire une attaque sur Lorenzo. Et Lorenzo va commencer à se plaindre. Et puis ensuite, ça va se détériorer. Donc on verra bien. Mais pour moi, ça peut pas rester calme entre les deux. Si les deux sont au même niveau toute la saison, ça c'est clair et net.
Je crois que t'as bien résumé effectivement. Si l'un des deux est handicapé, alors on rappelle que l'un est blessé à l'épaule, c'est Marquez. Il a traîné un petit peu ça sur la fin de saison, mais il a réussi à composer avec. Et puis malheureusement, ce scaphoïde qui a été blessé à deux reprises pour Lorenzo. Là, il faudra attendre le Qatar, hein, pour y voir plus clair. Alors tiens, une nouvelle également que tu as appris, bien sûr, Randy, c'est qu'on a décidé du côté de la Dorna, de l'organisateur donc du MotoGP, de retirer le numéro 69, qui était le numéro mythique de Nicky Hayden, le pilote américain qui a été champion du monde en 2006. Que penses-tu de cette décision en l'assortissant du fait que d'autres numéros ne sont plus attribués, le 48 pour en souvenir de Tomizawa, le 58 Marco Simoncelli, le 74 de Daijiro Kato, et puis heureusement pour de meilleures raisons, parce que malheureusement tous ces pilotes ont perdu la vie, Kevin Schwantz, le 34 aussi, on le préserve, et celui de Loris Capirossi. Que penses-tu de cette décision de protéger des numéros mythiques comme cela?
Ouais, je pense que c'est une bonne chose, hein. Nicky Hayden, ouais, a fait pas mal de saisons en MotoGP. Il était associé à ce numéro. Il a été champion du monde en MotoGP. Voilà, on sait ce qui lui est arrivé et je pense que c'est tout à fait logique. Et, c'est un bel hommage que le monde des Grands Prix lui rend. Et donc il y aura une cérémonie à Austin au Grand Prix pour lui. Donc voilà, encore un moment triste, hein, parce que c'est vrai que perdre. Je dirais, c'est une communauté, le MotoGP, de perdre quelqu'un, malheureusement, en plus, même pas sur la piste, c'est dur.
C'est ça, c'est un accident de circulation, il était à vélo, hein, il faut le rappeler. Hein.
C'est ça. Donc c'est le... Je pense que c'était le minimum à faire pour la Dorna, et ils l'ont fait.
Ils l'ont fait, effectivement. Moi, je voulais te faire réagir là-dessus et je le répète une nouvelle fois, il faut le rappeler tout le temps, les pilotes de MotoGP sont des héros qui prennent des risques absolument incroyables. Alors, on parle aussi des révélations. Tiens, on a vu que chez Yamaha, où ça n'a pas trop marché, hein, la saison dernière, d'ailleurs les pilotes, à commencer par Rossi et Vinales, se sont un peu plaints des machines, on a changé de responsable technique là aussi. On sait que chez les Japonais, ce genre de désaveu, c'est assez violent.
Ouais, c'est sûr. Après, l'annonce a été faite très tard. Je pense que c'est dans les tuyaux depuis la fin de saison, que le responsable du service course n'allait plus être là. Mais par contre, ils ont annoncé là il y a quelques temps. Donc voilà. Est-ce que c'est ce qui permettra à Yamaha de sortir la tête de l'eau? On a vu que quand même sur la fin de saison, Maverick Vinales a remporté un Grand Prix. Le problème de cette moto, c'est pas qu'elle était mauvaise, c'est qu'elle était très sensible. Et alors que c'était l'opposé de cette moto pendant de nombreuses années. La Yamaha était considérée comme la moto passe-partout, qui fonctionnait bien partout. Et là, c'est devenu l'inverse, tout simplement. Ouais, donc, ouais. Donc là, Yamaha s'est remis au travail. Et lorsqu'on voit les courses que Vinales est capable de faire lorsqu'il est en forme, il est capable de jouer la victoire et le titre. Maintenant, il faut que tout soit réuni. Et Rossi, qui est peut-être un tout petit peu moins vite, mais qui est toujours là en course, si la moto est performante, lui aussi aura son mot à dire. Donc, on a hâte que la saison débute. Et puis après, on va forcément enchaîner sur Ducati. Et qui pour moi fait figure de favori sur ce début de saison. Quand on voit la blessure de Marquez, la blessure de Lorenzo, la Yamaha, on sait pas vraiment où elle en est. On va attaquer au Qatar où la moto fonctionne très bien. De grandes chances de voir Dovizioso en plus qui va avoir comme coéquipier Danilo Petrucci qui va être son lieutenant, c'est clair et net. Il sera là pour l'aider et pas pour lui voler des points contrairement à ce qui se passait avec Lorenzo. Donc ça peut être la force de Dovizioso. Maintenant, Dovizioso a été sous pression pendant 2 ans avec Lorenzo. C'est peut-être aussi ce qui lui a fait prendre encore plus de grandeur et faire ce qu'il a fait. Hein, il a réalisé quand même des choses extraordinaires. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, sur le début de saison, c'est Ducati et Dovizioso les favoris.
Super.
Merci beaucoup, Randy Depugné, d'avoir été en direct sur RMC.
C'était avec plaisir.
Voilà.
Merci,
donc,
Andy.
Le début de la saison de MotoGP le 10 mars à Doha, au Qatar. Évidemment, vous ferez vivre tout ça tout au long de l'année. Dans un instant, sur RMC Long Motor, c'est Radio Paddock, Jean-Luc avec Benoît Boutron, qui va venir tout nous dire de tout ce qui se passe là dans les coulisses de la Formule 1 à quelques semaines du début du championnat du monde. À tout de suite sur RMC.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Ah oui, jusqu'à 14h, Motors, évidemment, comme tous les dimanches, 13h, 14h, toute l'actu des sports méca. Je vous rappelle évidemment la principale information de ce début d'après-midi, c'est la victoire de Sébastien Ogier avec son copilote Julien Ingrassia au rallye de Monte-Carlo, première manche du championnat du monde 2019. Jean Lecroix est toujours là dans un instant. On accueille Benoît Boutron pour Radio Paddock, votre journal habituel de tout ce qui se passe justement dans le reste du monde des sports méca, et notamment on va parler de Formule 1 aujourd'hui. Avant ça, tiens, nouveau détour par le stade Ernest Vallon, où le stade toulousain défie le FC Grenoble, Wilfried Templier. C'est compliqué pour les rouges et noirs.
Évidemment, c'est compliqué. Quand on a Marchand, Aldeguerri, Dupont, Ntamaku, Gemedar ou Ramos qui ne sont pas là, ils sont avec l'équipe de France, on le rappelle, début des doublons. Il n'y a que le rugby pour ça, faire jouer le championnat en même temps que l'équipe de France. Et il manque au stade toulousain, donc c'est dur face à Grenoble, pourtant 12e, le stade toulousain qui mène 15-9, deux essais, Guitoun et Lebel, qui permettent quand même, mon cher Arnaud, pour l'instant, au stade toulousain, virtuellement, d'être leader du top 14 après la défaite de Clermont hier à Casse. Mais oui, tu l'as dit, c'est dur, ils ne sont sûrs de rien pour le moment, même s'ils dominent depuis pas mal de minutes les Grenoblois plus dans le camp toulousain en première période, et là, c'est plus dur pour les Alpins, d'autant qu'on a fait entrer du sang frais du côté de Toulouse avec Castets, Van Dijk, Richie Arnold, Gillian Gallant ou Jérôme Keno. Et là, on voit quand même la différence, le stade toulousain accélère, et s'il marque un essai en plus, ce sera le bonus offensif, ce sera le jackpot, certainement le break définitif et la victoire. Pour l'instant, on n'en est pas là. 15-9 pour Toulouse, 58e minute.
Allez, tout de suite, c'est Radio Paddock.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Avec l'œil de Moscou, des paddocks du monde entier, Benoît Boutron qui est là comme tous les dimanches. Salut Benoît.
Salut Arnaud, salut le King. Salut à tous.
Salut Benoît.
Et qui est allé se mêler de ce qu'il regardait pas dans le petit monde de la Formule 1. Voilà, qui est allé à la pêche aux infos cette semaine et qui nous a plein d'infos à nous donner justement sur la préparation tout simplement du paddock, de la Formule 1 à sa saison 2019.
Ce monde fantastique et ultra concurrentiel de la Formule 1, ça nous fascine. C'est un petit peu comme les entraîneurs de foot de Ligue 1 qui mettent leurs mains devant leur bouche, puisqu'on va parler de la date de présentation des teams. On connaît désormais quelques dates des teams proposés. On connaît 6 dates sur les 10 équipes. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on rappelle, Jean-Luc, que les dirigeants de la Formule 1 voulaient faire une présentation globale, ouverte à la presse, pour qu'on puisse admirer les voitures et tout. Malheureusement, les équipes ont dit non, pas question. On veut cacher les petites spécificités des monoplaces. Du coup, il n'y aura pas de présentation globale et on a quelques dates. Donc, je peux vous dire que la Toro Rosso sera présentée le 11 février, la Ferrari notamment le 15 février, McLaren 14 février, Sauber 18 février. Mais c'est vraiment de l'intox jusqu'au début de la saison, Jean-Luc. Hein.
Ah, complètement, d'autant que les machines que l'on verra évidemment lors de ces présentations, je te rassure Benoît, tu le sais bien, ne seront pas celles que l'on verra évidemment lors du Grand Prix d'Australie au mois de mars. Entre temps, il y aura deux séances d'essai de 4 jours, et puis comme tu le dis, en plus il y a une petite révolution, on peut quand même parler comme ça au plan aérodynamique, puisqu'on a simplifié l'aileron avant, on a essayé de faire en sorte que les voitures soient plus efficaces en ligne droite pour pouvoir dépasser, on va pas dire plus facilement, mais moins difficilement, et ça c'est une très bonne chose. Tu sais à quel point je me bats contre ces empilages aérodynamiques et depuis des années, donc on devrait avoir des monoplaces plus pures, plus efficace mécaniquement, en tout cas moins perturbé dans le sillage d'une autre monoplace. Alors il y a toujours le fameux DRS évidemment pour gagner de la vitesse de pointe. Bref, donc on va cacher les petites astuces ou les grosses astuces aéro qu'on a pu découvrir du côté des ingénieurs. En tout cas, l'objectif avoué c'était de perdre 30% effectivement de cette efficacité aéro. Il se dit que les ingénieurs en soufflerie ont déjà regagné 15%. Donc tu vois, on verra bien.
On verra bien effectivement. Tiens, une autre petite info de la semaine. Benoît, c'est Eddie Irvine. Alors les plus jeunes ne le connaissent pas forcément, hein. C'était à l'époque le coéquipier de Michael Schumacher chez Ferrari, qui déglingue un autre Allemand justement, Sébastien Vettel. Hein.
Il s'est fait plaisir, effectivement, le Nord-Irlandais, on va le resituer, il avait gagné 4 Grands Prix pour Ferrari, vice-champion du monde en 99, ancien coéquipier de Michael Schumacher, donc un bon pilote de Formule 1, Eddie Irvine. Il a eu un entretien avec la BBC cette semaine, effectivement. Il n'a pas hésité à dézinguer Sébastien Vettel. Je vous lis ses propos sur Vettel. Je pense que Vettel est un bon pilote, mais en tant que quadruple champion du monde, je ne vois juste pas ça. Il ne le mérite pas. Il est grandement surestimé. Il a qu'une corde à son arc, alors que Lewis a un talent bien plus vaste. En fait, en gros, ce qu'il dit Eddie Irvine, c'est que Vettel est un bon pilote lorsqu'il n'est pas à la lutte avec un autre. C'est un bon pilote pour mener un Grand Prix, mais il a du mal dès qu'il y a de la bagarre. Et il a mis une couche également sur Lewis Hamilton. Il a dit oui, Lewis Hamilton est un grand. Il est sur une autre planète par rapport à tous les autres, mais il n'est pas sur la même planète que Michael Schumacher. Je ne pense pas qu'il en soit proche, même s'il accumule beaucoup de victoires. C'est simple, Hamilton a la meilleure voiture, mais il y a plus de courses et la concurrence est discutable. Donc pour lui, c'est normal qu'Hamilton survole la Formule 1 sur les dernières saisons.
Bon, c'est sympa.
Écoute, c'est une grande gueule, hein, Eddie Irvine, ça l'a un peu toujours été, bah, comme par hasard, sauf quand il était chez Ferrari aux côtés de Michael Schumacher, où là, il se pliait aux ordres, comme les autres, hein, à l'époque. Quand on lui a demandé de se coucher, bah, il s'est couché devant Schumacher, je suis désolé de le rappeler, même s'il a été vice-champion du monde. Et il a pas réussi à attraper sa chance, c'était l'année où Schumacher s'était blessé à une jambe, il avait une chance d'être champion du monde. Il a pas réussi. Donc, c'est vrai qu'avec 20 ans de recul, effectivement, on peut porter des jugements. Alors, je vais pas me permettre de critiquer ce que lui dit sur Vettel, d'autant que je l'ai fait aussi à certains moments. Bon, c'est un peu dur quand même. Quelqu'un qui est 4 fois champion du monde de rang, qui se bat pour le titre depuis des années et des années. C'est vrai qu'il a commis des erreurs, mais bon, c'est toujours un peu facile après, quand on est retiré du business, d'aller tailler comme ça. Je pense que il a intérêt à valoriser Schumacher aussi. Pourquoi? Ben, pour les raisons que je viens d'évoquer. Ben comme oui. Il a été dominé par Schumacher, c'est normal de dire que c'était le meilleur.
Ben voilà. Je peux te rendre fou, Jean-Luc? Parce qu'il y a encore une déclat qui peut te rendre fou.
Vas-y.
Sur le plan technique, il a dit « Je pense que Michael était probablement le meilleur. La technique de Senna était imparfaite. Il était ce pilote incroyablement talentueux. Il avait une touche exceptionnelle, mais il avait des techniques qui n'étaient pas correctes et il ne pensait pas à tout. » Voilà, il a même mis une couche sur Senna.
Bon, il y a quand même une différence entre Eddie Irvine et Eddie Irvine. C'est qu'il n'a jamais été champion du monde, Eddie Irvine. Hein.
Oui, voilà.
Ouais, je peux réagir. Donc il est fou, ça y est. Il est devenu fou. Voilà. Je sais pas ce qui se passe du côté d'Irlande, il y a un micro-clip. Bon. Non, écoute, bon, c'est son opinion, oui. On va la respecter, ouais.
Non, allez, au moins ça nous fait parler. Tiens, une autre info celle-là nous concerne plus directement, on va dire, pour le Grand Prix de France justement 2019 de Formule 1, le tracé du circuit Paul Ricard légèrement modifié. Hein.
Exactement, c'est la 50e édition du Grand Prix de France, ce sera en juin prochain. Nouveau dessin, de certains virages, revêtement nouveau à 60% aussi. Tous les virages ont été resurfacés, donc a priori c'est une bonne info. Seules les lignes droites n'ont pas été touchées, donc on a préservé pour l'instant ces parties du circuit. Les autres améliorations, c'est l'entrée et la sortie des stands qui était un petit peu compliquée sur le circuit, effectivement, Paul Ricard. Ça a été modifié. Il faut savoir que lorsqu'il y a une modification sur un circuit, il faut que ce soit validé par la FIA, et Charles Whiting, le patron de la FIA, a visité le circuit vendredi et il a validé ces changements. On rappelle que le Grand Prix de France, ce sera du 21 au 23 juin prochain. Des bonnes nouvelles, a priori, Jean-Luc, on améliore le circuit du Grand Prix de France.
Ah bah écoute, on ne peut que s'en réjouir, ça a déjà été un très très beau succès, évidemment, ce retour de la F1 en France. On attend la deuxième édition de ce retour à la fin du mois de juin et on sera là, évidemment, en bloc. Alors, on a avancé l'entrée, c'est vrai qu'elle avait posé problème, je crois que c'est le stand Mercedes qui était juste au début de la voie des stands et les machines arrivent tellement fort, c'était ouais. Un peu étroit. On va rentrer maintenant, ce qu'on appelle entre le virage de la Tour et le virage du pont. C'est une grosse nouveauté quand même, hein, et je pense qu'évidemment, cette entrée F1, entre guillemets, va être validé pour le reste des épreuves qui se déroulent sur le circuit Paul Ricard. Donc écoute, c'est une très bonne nouvelle qu'on y travaille. On s'était posé la question également de la fameuse chicane, tu sais, dans la ligne droite du Mistral, et je crois que finalement on va la conserver, parce que comme il y a eu des attaques et des dépassements à cet endroit-là, et puis on se dit aussi que les F1 arriveraient peut-être à 360 ou 380 km/h dans la courbe de Signes, ça ferait peut-être beaucoup quand même.
Tu sais ce qui m'inquiète quand on parle de nouvelles surfaces pour un circuit? Moi, ça me, en tant que amateur de MotoGP, ça me fait penser à Silverstone la saison dernière, tu te souviens, Jean-Luc, avec ce Grand Prix qui n'a pas pu être couru. Il y avait eu des trompes d'eau et la piste absorbait pas l'eau, du coup le Grand Prix n'avait pas pu se disputer. On espère que, évidemment, les organisateurs ont bien pensé à ça. C'est toujours délicat, mine de rien, de resurfacer un circuit.
Tiens, tu me fais une belle passe décisive.
Je fais confiance à Stéphane Clerc, le patron du circuit, qui est un type formidable et qui fait du très bon boulot, donc j'imagine qu'on y a pensé, surtout avec l'exemple de Silverstone, et t'as raison de le rappeler.
Je disais, tu me fais une belle passe décisive, enfin tu te fais une belle passe décisive, Benoît, parce qu'il pleut. Oui, bah écoute, passe DS, voilà, tu te fais le centre et à la fois t'es au milieu pour venir mettre ta tête. Un petit point sur les 24 heures de Daytona, parce que justement je crois savoir qu'il pleut énormément dans le nord de la Floride.
Incroyable.
Ça n'empêche pas un Espagnol d'être en tête de ce Grand Prix.
Fernando Alonso, qui est en tête de ces 24 heures de Daytona, la course avait très bien démarré, mais là effectivement elle est arrêtée depuis plusieurs minutes. Il reste officiellement au chrono 6h41 à disputer et les voitures sont à l'arrêt. Il y a beaucoup trop d'eau en Floride, Jean-Luc, je pense que tu as suivi ça avec beaucoup d'attention. Là, c'est pas possible de courir. Moi, j'ai vu les derniers tours, ça fait à peu près un peu plus d'une heure, les voitures étaient au ralenti, ça ressemblait plus à rien malheureusement ces 24 heures de Daytona.
Bah écoute, c'est malheureusement il y a des limites à tout, y compris au sport mécanique. Et là, c'est effectivement des pluies tropicales, comme l'on dit. Donc la piste est totalement détrempée. Il y a eu une sortie de piste, heureusement sans gravité pour le pilote, mais l'une des corvettes a quitté la piste et elle a mis 100 mètres à s'arrêter. Incroyable. Il a terminé dans le mur de pneus. Bon, le pilote est indemne. Et tu le disais, bah, l'événement. Alors on est encore, il reste officiellement 6h40. On est arrêté au drapeau rouge. Si la pluie cesse ou ralentit, on va lâcher à nouveau les machines. Mais ce qui est formidable, c'est que Fernando Alonso, avec son équipier, ils sont quatre dans cette Cadillac. Il y a Van Der Zandt, il y a Jordan Taylor et il y a Kamui Kobayashi, l'ancien pilote de F1, qui sont en tête. Et on peut dire que dans la voiture qui est deuxième, qui est une Acura du team Penske, il y a un Français. C'est Simon Pagenaud qui est en compagnie de Juan Pablo Montoya et de Cameron. Donc il y a des Français qui sont très très bien placés. Et puis on n'oubliera pas non plus, il y a Olivier Pla également qui roule dans une des Mazda.
Et pour l'instant, il est 11e, je crois. Non, 41e.
Ils ont été ralentis. Oui, il y a eu quelques arrêts. Il y a un autre Français, Romain Dumas, qui est quatrième également avec une Nissan. Enfin bon, on est représenté ici.
Allez, très bien. Mais c'est parfait. Et on suit ça, évidemment. On vous renvoie vers notre site rmcsport.fr pour avoir tous les résultats de ces 24 heures de Daytona. Merci Jean-Luc.
Et c'était un grand plaisir. On en veut d'autres, des
plaisir
émissions comme ça de la
vie. Tu reviendras dimanche prochain, c'est promis. Juste, le temps pour nous d'aller faire un tout petit détour par le stade Ernest Vallon. Toulouse-Grenoble, le rugby, la 15e journée de top 14. Le temps, le score, Wilfried.
Le Stade Toulousain a porté les stockades, Arnaud. Ça fait 29-9 maintenant, grâce à un essai de Guitoun et un autre de Castets. Ça fait 4-0. Et donc, le bonus offensif pour le moment pour le Stade Toulousain, virtuel leader du top 14. 29-9 pour Toulouse face à Grenoble. 68e minute.
Suite et fin. Dans l'intégral sport dans un instant avec Christophe Cessieu du handball également au programme. Et puis Motors revient dimanche prochain 13h. Très belle semaine.
RMC Motors avec Motorsport TV.